Trouble santé mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais.
Et bonjour, bienvenue dans l'émission Full Santé Mentale, l'émission de RCN qui chaque mois démonte les tabous et détricote les idées reçues. Et ce mois-ci, eh bien, une thématique toute particulière puisque nous avons décidé de parler de l'histoire de la psychiatrie d'hier à aujourd'hui. Et pour ce faire, quoi de mieux que de déplacer notre studio, chère Stéphanie, voilà, dans un lieu chargé d'histoire au cœur du CPN de Nancy. Bienvenue Stéphanie, bonjour, comment vas-tu ?
Bonjour à tous, très bien, je suis ravie de vous accueillir au sein du CPN.
On rappelle que tu es coordinatrice du PTSM 54. On va rappeler à nos auditeurs ce que c'est, à quoi ça correspond.
Le projet territorial de santé mentale, il a pour but notamment de mettre en place des actions pour déstigmatiser la santé mentale. Et quoi de mieux de réaliser une émission de radio et de parler de la psychiatrie ?
Et ben voilà, que d'être ici. Merci Stéphanie. À côté de toi, Roman, un habitué de l'émission. Bonjour Roman, comment vas-tu ?
Salut Thomas, ça va et toi ?
Roman du CREPSI.
CREPSI, c'est ça, chargé de ressources, centre ressources en handicap psychique.
Très bien, et avec nous pour nous accompagner dans cette émission ce matin, et on est très heureux de les avoir à nos côtés, Marie-Claude Baroche, présidente d'honneur d'Espoir 54. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Merci, oui.
Bon, avec vous, on parlera de la psychiatrie telle qu'elle a évolué ces dernières années.
Oui, tout à fait.
À vos côtés, Dorothée Debroux. Bonjour Dorothée. Votre micro semble ne pas fonctionner. Attends, on va le rallumer, il est là. Voilà, normalement, ça doit être bon. Allez-y.
Bonjour.
Eh ben voilà, on vous a retrouvé. Très bien, on est ravis de vous avoir à nos côtés également. Et puis, le docteur Thierry Monteau, je vais essayer de ne pas dire de bêtises. Vous êtes psychiatre à la retraite de la psychiatrie publique et surtout, vous êtes un passionné d'histoire.
Tout à fait, bonjour.
Donc, avec vous, on va un peu revenir dans toute cette histoire. On va le voir et on va le découvrir ensemble ici, dans ce lieu notamment. Elle est très ancienne. Puisqu'on parle de quoi, plus de 400 ans, je crois.
Oui.
Bon, et vous allez nous faire revivre un petit peu tout ça. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, dans l'émission, l'objectif, c'est de raconter ce qu'était la psychiatrie et ce qu'elle est devenue, de le vivre ensemble. Et comme à chaque fois, on va démarrer l'émission par du micro-trottoir. Vous êtes allé alors à la rencontre de... Roman, dis-nous tout.
De personnes dans la rue.
Voilà, et à qui vous avez posé des questions. Qui de vous deux pose la première question, Roman ?
Du coup, c'est moi.
Roman.
Du coup, ce qu'on a posé comme question, quelles sont vos perceptions de la psychiatrie d'hier ?
Moi, je dirais que la psychiatrie d'hier, c'était plus des incompréhensions sur beaucoup de problèmes. En fait, c'était hier dans le sens, en fait, c'était des incompréhensions. On ne savait pas encore tout comment traiter, comment s'y prendre. Ma perception de la psychiatrie d'hier, c'était... Alors, je ne veux pas tomber dans le cliché du Moyen-Âge, mais quelque chose qu'on n'appréhendait pas aussi bien qu'aujourd'hui. Sans parler de troubles mentaux vraiment lourds, on avait tout ce qui était lobotomie, des choses dans ce style-là. On est passé de la chasse aux sorcières, parce que pour le Moyen-Âge, avant, on parlait de chasse aux sorcières, on disait « Ah, les gens, ils ont des troubles mentaux », mais en fait, on ne les comprenait pas. On disait « Ah, c'est des sorciers, c'est des sorcières, c'est des gens voilà, qui ne sont pas bien, il faut... » Voilà, après, sans parler des événements atroces qu'il y a eu dans les années 40 et sous un certain régime. Et aujourd'hui, qu'on a dû vraiment travailler le sujet, en fait. Et je pense que la psychiatrie d'hier, c'est surtout comment comprendre ces mots, comment les traiter, comment les atténuer, comment comprendre les personnes atteintes par ces mots.
On ne comprenait pas les gens. C'est-à-dire que, comme le handicap psychique est un handicap qui ne se voit pas, je pense qu'on ne comprenait pas. Et on enfermait les gens sans trop comprendre le pourquoi du comment. Ça faisait peur. Aujourd'hui, ça fait toujours peur, mais c'est différent. C'est différent, on en parle plus facilement et les choses sont plus adaptées.
Bah, moi, je vois surtout l'ancienne psychiatrie comme un peu la prise en charge vraiment sans aller très loin dans la perception des problèmes des personnes. Genre un peu comme on pourrait voir l'asile de fous. Moi, je vois ça comme ça vraiment avant l'asile, quoi.
Bah, je pense qu'on n'était pas assez au courant de beaucoup de choses, que ce soit en termes de pathologie ou de comment essayer d'arranger ça, le quotidien ou ce genre de choses. Je pense qu'on n'en parlait pas assez, c'était trop tabou et ça faisait peur surtout. Donc en termes d'outils, il n'y avait pas grand-chose.
Je sais que c'était plus stigmatisé, que c'était plus une vision où on voyait les personnes souffrantes comme des fous un peu. C'était très mal compris, très mal accompagné, je pense. Et il me semble que les personnes étaient juste mises à l'écart, enfin un peu enfermées, quoi, et ouais, vraiment mises à l'écart de la société.
La psychiatrie d'hier, bah, comme dans les films, c'est mettre les fous dans les asiles de vieux, les enfermer.
mise à l'écart, incompréhension, beaucoup de mots qui ressortent dans ce premier micro-trottoir.
Oui, c'est ça. Pour beaucoup des interviewés, du coup, la psychiatrie d'hier était quelque chose de vraiment d'incompris. Les patients étaient stigmatisés par la crainte qu'on leur conférait. On parle beaucoup du tabou de la folie qui faisait extrêmement peur. Le docteur Manteau nous en dira sûrement un mot tout à l'heure. Il semblerait que dans les préconceptions des personnes, les malades dits mentaux étaient mis à l'écart de la société dans les asiles pour fous, car ce handicap invisible provoquait quelque chose de l'ordre du divin chez tout un chacun. On ne pouvait pas l'expliquer, en fait. Donc on pourra rediscuter de cette vision de la psychiatrie d'hier avec les invités.
Bien sûr. La deuxième question que vous avez posée, Stéphanie.
Pensez-vous qu'il y ait une évolution positive de la psychiatrie ?
Eh bien, on écoute ça tout de suite.
Je pense que la compréhension, les gens ont compris que c'était une maladie. Avant, on la cachait, on mettait tout le monde de côté, les gens étaient fous. Voilà, la moindre chose, on disait que les gens étaient fous, alors que maintenant, on comprend mieux les choses. Les études sont faites pour comprendre les maladies et on a pu les diagnostiquer maintenant.
Maintenant, on essaie beaucoup plus que ces personnes se retrouvent en société, de faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus intégrés dedans, faire en sorte qu'ils se réinsèrent.
Justement, je pense qu'ils n'étaient pas bien accompagnés, ils ne savaient pas vraiment quels soucis psychotiques, si on peut dire ça comme ça, ils avaient et ils vivaient avec ça tous les jours et sans forcément être aidés, quoi.
Oui. Alors, dans l'accompagnement, la prise en charge, maintenant c'est plus seulement du soin qu'on propose, c'est aussi l'accompagnement à l'autonomie, à la vie citoyenne. Il y a beaucoup de social qui est fait aussi maintenant dedans et c'est très bien. Maintenant, comme partout, il y a toujours encore des choses à faire, mais la déstigmatisation avance pas mal. C'est des sujets où les gens osent plus en parler facilement. Donc c'est plus autant abstrait qu'avant.
Je trouve que maintenant on en parle beaucoup plus, on est beaucoup plus sensibilisé à ça, que ce soit dans les écoles, les pubs ou même dans la rue, on en parle un peu plus souvent. Après, je pense qu'il y a encore énormément de progrès à faire là-dessus, parce que ça fait encore peur pour certaines personnes, surtout les anciennes générations, par exemple nos grands-parents, arrière-grands-parents, si on a encore la chance de les avoir, c'est quelque chose qui fait flipper. Quand on va utiliser par exemple le terme de schizophrénie, enfin, tout de suite, on va avoir des images, même par rapport à des films, des séries, des trucs comme ça. C'est très caricatural. Et du coup, je pense que maintenant, ça a évolué, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais que ça va aller que dans du positif.
Je dirais qu'aujourd'hui, c'est que déjà, ça a été reconnu. Déjà, à une époque, c'était moins reconnu, moins mis en avant que par rapport à des troubles de santé plus classiques, on va dire. Il y a une vraie reconnaissance des structures d'aide, une vraie reconnaissance des structures d'accueil, au niveau déjà national, même international, de plus en plus. Et je pense que déjà les études, les anciennes études qui ont évolué, qui ont amené beaucoup de choses, beaucoup de connaissances. Et puis aujourd'hui, c'est le numérique aussi qui a permis de vraiment centraliser, de faire une vraie base de connaissances de tous ces maux, de tous ces troubles.
Est-ce que le numérique a permis de mieux connaître ? On le découvrira peut-être dans l'émission. Beaucoup de choses ont été dites. On parle maintenant aussi de... On voit bien, on en est passé, de l'incompréhension à l'accompagnement, à la prise d'autonomie. Stéphanie, quelques mots sur ce qu'on vient d'entendre ?
Dire que la psychiatrie a évolué, c'est indéniable. Elle a énormément évolué. On est passé de l'asile, de l'enfermement, de cacher les fous à l'hospitalisation, à l'accompagnement, à la prise en charge... à l'accompagnement aussi qui a beaucoup évolué et d'ailleurs même hors du cadre hospitalier, l'évolution des traitements a énormément évolué également. Par contre, on peut quand même dire qu'il subsiste encore beaucoup de peurs, beaucoup d'idées reçues, que notre travail de tous les jours, c'est de continuer à déstigmatiser ces idées reçues, à déstigmatiser la psychiatrie. Parce qu'il y a encore du travail.
Il y a encore des choses à faire et à voir, en effet. On reviendra peut-être aussi sur ces notions de film, série, de caricature. La dernière question que vous avez posée.
Eh bien, du coup, que savez-vous de la psychiatrie et de l'accompagnement d'aujourd'hui ?
Eh bien, déjà, les hôpitaux spécifiques pour des personnes qui ont des troubles mentaux, où là, effectivement, on va vraiment analyser le trouble de la personne et après, voir vers quel organisme... Les renvoyer pour justement adapter et le traitement médicamenteux s'il en faut un, donc ça qui est en général vu par un psychiatre, et l'accompagnement de tous les jours.
Il y a des associations, le CMP, le CPN, le CREPSI. Il y a pas mal quand même maintenant de structures et d'assos qui peuvent renseigner et accompagner dans ce domaine.
Moi, je connais par exemple Ravenel. Pour de la dépression, par exemple, on peut faire un séjour, si on peut dire ça comme ça. Et après, c'est redirigé vers des structures plus adaptées.
Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui aident. On a des professionnels de santé, alors que ce soit au niveau des associations, au niveau des hôpitaux, au niveau public, hein, je parle des services publics, ouais. qui aident. Déjà au niveau de l'accompagnement, au niveau des prises en charge. Je veux dire, je vais comparer un peu, mais par exemple, on a des numéros d'urgence pour les dépressifs, pour les suicidaires. C'est des dispositifs qui se mettent en place au niveau national, avec des numéros verts, et on voit que c'est quand même pris en compte au niveau des pouvoirs publics, hein. Donc, au niveau des dispositifs, on a du national, on a du régional. Vous avez même plus locaux avec des associations ou plus de structures peut-être plus ciblées ou peut-être plus locales. Mais vraiment, ce que je pourrais citer comme ressources aux personnes atteintes de ces troubles.
Beaucoup de choses qui ont été citées sur tout ce qui est mis en place pour accompagner aujourd'hui le trouble psychiatrique.
Alors, juste pour revenir sur une chose, au début du micro-trottoir, il est dit troubles mentaux. Donc, peut-être que le psychiatre, Dr Manteau, pourra faire la différence entre troubles mentaux et troubles psychiques. Je pense que c'est assez important. Par ailleurs, aujourd'hui, on a une prise en compte de la psychiatrie dans sa globalité avec des spécialisations et des expertises plus adaptées, comme par exemple, nous dit un interviewé, par exemple, au CPN, il y a le centre expert sur les troubles bipolaires. Donc, il y a vraiment une spécialisation par pathologie. Avec aussi, au niveau national, nous dit un autre, une prise en considération par les pouvoirs publics de la santé mentale, cela avec des numéros verts, comme le 3114, qui pour la prévention du suicide, en fait. Et enfin, les enquêtés évoquent les hôpitaux, qui proposent une aide avec les traitements, notamment, mais aussi les associations pour la prise en charge sociale pour le retour dans la cité, dont Mme Baroche pourra nous en dire un mot aussi.
Oui, on voit qu'on est sur une prise en charge beaucoup plus globale, effectivement, que ce que ça a sans doute été avant. D'ailleurs, on va en parler dans quelques instants avec le docteur Manteau. En attendant, je vous propose peut-être que justement on se fasse une petite respiration musicale. Et c'est le docteur Manteau qui a choisi ce titre, docteur Manteau. Vous avez choisi un Pink Floyd. Vous pouvez nous expliquer en un mot pourquoi ?
Oui, j'aime beaucoup la musique, surtout la musique de cette époque-là. Et puis, on connaît tous le destin assez tragique du premier chanteur, du fondateur quasiment de Pink Floyd, Syd Barrett, qui a rapidement abandonné étant atteint de schizophrénie. Et ce morceau-là vient du disque donc, Wish You Were Here. Et au moment de l'enregistrement où il parle de Syd Barrett, il se sentait coupable de l'avoir mis dehors du groupe, et juste à ce moment-là, il n'avait pas vu Syd Barrett depuis plusieurs années. Il est venu pendant l'enregistrement de ce morceau qui parlait de lui.
Eh bien, on l'écoute maintenant sur RCN dans Full Santé Mentale, émission spéciale au CPN où l'on parle de l'histoire de la psychiatrie. Bienvenue à vous sur RCN, bienvenue dans Full Santé Mentale. On est ensemble jusqu'à 11h.
Jusqu'à 11h, Full Santé Mentale sur RCN.
Avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais.
Et toujours ici au cœur du CPN de Nancy, puisque je vous le rappelle, ce matin nous avons le plaisir d'échanger, de partager sur l'évolution de la psychiatrie d'hier à aujourd'hui. Et Stéphanie, on a le plaisir d'avoir installé nos studios ce matin ici dans un bâtiment qui s'appelle le bâtiment Monfils, c'est bien ça ?
Exactement, le pavillon Bonfils.
Le pavillon, tu peux nous... Okay. Bonfils, Bonfils, oui, bien, je l'ai mal dit, effectivement, merci de me l'avoir rappelé.
Le pavillon Bonfils qui a, à l'époque, accueilli des patients, on est ici dans la salle à manger, mm-hmm. et qui a accueilli en 2020 le tournage du film Le bruit des trousseaux, pardon. Ouais. C'est un roman, enfin, le film a été adapté du roman autobiographique éponyme de Philippe Claudel, mmh. qui en fait raconte son histoire. C'est un jeune prof de français qui donne des cours à la maison d'arrêt de Nancy. Et du coup, ce lieu a permis d'avoir des chambres isolées et de faire toute une construction comme si on était dans une maison d'arrêt.
En repérant le lieu pour installer le studio, c'est vrai qu'on a visité effectivement ces fameuses cellules, c'est assez surprenant. D'ailleurs, on pourra peut-être en reparler, hein, peut-être de la façon dont, quelque part, on pourrait faire le lien entre enfermement pénitentiaire et enfermement psychiatrique, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure.
Et du coup, j'embraye là-dessus, juste pour faire un petit remonté dans l'histoire et puis faire un petit historique du centre psychothérapeutique.
Oui, parce que
de Nancy.
Le centre psychothérapeutique, il a une histoire bien ancienne. Pour ceux qui, peut-être comme moi, le pensaient, moi je m'étais arrêté aux années 1890, mais non, c'est bien plus ancien
bien
que ça.
Bien au-delà.
Alors dis-nous-en un peu plus sur le CPN.
Le centre psychothérapeutique, il est né le 4 avril 1597. C'est le jour où une noble dame, Anne Ferrier, elle légua une somme de 30 000 francs afin de fonder un hôpital pour les malades atteints de la peste. Donc, depuis ce lieu, il a connu bien des vicissitudes, mais il ne s'est jamais écarté de sa vocation première, c'est-à-dire la lutte contre l'exclusion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Anne Ferrier fonde cet hôpital. Mmh. Elle décède, je fais très rapide, hein. Décède, l'administration de l'hôpital passe sous l'autorité de l'hôtel de ville de Nancy en 1610. En 1714, le duc de Lorraine, Léopold, décide de restaurer l'ancien hôpital des Pestiférés et d'en faire un hôpital général en forme de renfermerie.
Du vocabulaire qui est bien costaud quand même, hein, il faut l'intégrer.
C'est ça. Et du coup, en 1749, le roi Stanislas, le roi de Pologne, qui avait pourtant autorisé la restauration de la manufacture du bas à Maréville, forme le projet de faire venir à Nancy, et donc à Maréville, les frères des écoles chrétiennes pour favoriser l'éducation des enfants pauvres. Donc les frères des écoles chrétiennes entrent en possession de Maréville en 1749. L'asile compte environ, à cette époque, 230 pensionnaires. Et à cette époque, il faut le dire, les religieux voient dans la folie une punition divine. On fait un petit saut dans le temps. On arrive en 1800, où, après un feu, il n'y a plus que 17 aliénés hospitalisés. Et pendant les guerres napoléoniennes, une partie de Maréville est transformée en ambulance. Le préfet de l'époque fait reconstruire les bâtiments pour accueillir les aliénés des deux sexes. Et c'est là que le docteur Bonfils est nommé médecin-chef. Donc le docteur Bonfils qui a donné son nom à ce pavillon.
Très bien.
L'hôpital compte 6 quartiers pour chaque sexe. En 1815, l'asile de Maréville devient l'hôpital central des aliénés des départements de la Meuse, des Ardennes, de la Haute-Marne, de la Meuse, des Vosges, de la Haute-Saône et du Doubs. J'abrège.
Oui, parce qu'on aura sans doute des choses à redétailler ensuite.
C'est clair, hein. Mais c'est important d'avoir le... En 1819, Joseph-François Bonfils succède à son père à la direction de l'hôpital. L'hôpital de Maréville compte alors 260 malades. Et puis, le 24 juin 1949, changement de dénomination, l'hôpital de Maréville devient le centre psychothérapeutique de Nancy.
Déjà à cette époque-là ?
Oui.
Très bien, ok.
Le docteur Morel donne le premier cours clinique de maladie mentale à Maréville en 1851. En 1873, construction du pavillon directeur. Et donc à cette époque, l'hôpital compte 1400 malades. En 1895... on fait édifier un parloir pour les classes supérieures et ce bâtiment servira à la Gestapo durant la dernière guerre lorsqu'il s'agira de surveiller Édouard Herriot, interné au pavillon Morel. Depuis, l'ancien parloir a servi de secrétariat. Aujourd'hui, on y entrepose du matériel. En 1912, on rétablit le pavillon Bonfils et puis toute une évolution qui va vers la fermeture de lits. Petit à petit, en 1970, création des hôpitaux de nuit. En 1973, ouverture officielle du centre de formation. Et en mars 1981, ouverture du premier centre médico-psychologique.
C'est lourd l'histoire du centre psychothérapeutique de Nancy quand on regarde bien et le vocabulaire peut être assez effrayant dans ce qu'on entend. Docteur Montaud, on a entendu quand même parler aliéné, de punition divine. On sent qu'il y a une notion d'enfermement qui est forte quand même et puis qu'il y a aussi un peu cette idée de mettre à l'écart un petit peu les gens dans toutes ces histoires qu'on a entendues. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'évolution et peut-être même la création déjà d'ailleurs de ces centres psychothérapeutiques?
Bon, déjà, la psychiatrie est vraiment née au début du 19e siècle. Donc, c'est à partir de ce moment-là où le Maréville est devenu d'ailleurs ce qu'on appelait un asile d'aliénés. Ouais. Hein, c'était le terme officiel. Et où c'est uniquement consacré au traitement, aux soins des maladies mentales. Avec rapidement la notion de traitement moral qui était quand même une notion qui laissait entendre qu'on s'intéressait au psychisme des patients, mais le traitement moral était quand même, pour le moins, assez persuasif. Sans traitement physique disponible, ces traitements physiques disponibles sont arrivés seulement après la Seconde Guerre mondiale, avec un drôle de traitement qui a commencé par la malaria-thérapie.
Oui, c'est vrai.
D'abord pour traiter symptômes psychiatriques de la syphilis tertiaire, donc la paralysie générale, mais ensuite qui a été appliquée à ce qu'on appelait la démence précoce, ancêtre de la schizophrénie, la maniaco-dépression, etc.
Ce que vous appelez juste traitement physique, pour qu'on comprenne bien, c'est médicamenteux ?
Alors, ces traitements biologiques, ce n'est pas vraiment malaria-thérapie, c'est un traitement par la fièvre, si vous voulez. On avait la supposition que la fièvre pouvait guérir d'abord les symptômes de la paralysie générale, et puis on a essayé de l'étendre, cette notion-là, à toutes les maladies mentales. Alors, chose qu'on retrouve aussi encore maintenant, qu'on admet qu'un patient atteint d'une grosse pathologie mentale comme la schizophrénie va, semble-t-il, un peu mieux quand il est atteint d'une maladie physique grave, par exemple le cancer. Et ça, tous les soignants l'ont plus ou moins constaté.
Oui, donc en tout cas, on voit qu'il y a quand même un lien. Même au départ, on traitait la peste quand on est arrivé ici.
Enfin, on la traitait, on la mettait à
l'écart. En tout cas, on la mettait à l'écart, oui, c'est ça.
On laissait mourir dans...
Il y a quand même cette idée-là, hein, qu'on parle d'asile d'aliénés. Moi, je me souviens, on parle de Marais-Ville quand j'étais gamin. C'est pas si vieux que ça. Bon. mais bon, ça remonte quand même à quelques années. Mais on parlait de Marais-Ville, l'Axouville des fous, par exemple. On sent qu'il y a quand même une évolution de la perception.
Une évolution, oui, certainement, due au regard complexe de la société qui a changé et parallèlement au type de soins qui ont changé. À l'époque, vraiment, l'asile, le comportement asilaire laissait entendre on avait notre pécule, les gens travaillaient. Bon, je parlais tout à l'heure d'un dossier que j'ai vu ce matin où le patient transportait le charbon pour les différentes chaudières des pavillons du CPN. C'était ça son job à l'hôpital. J'irais même à la limite, parfois le critère de laisser sortir quelqu'un, et ça je l'ai vécu quand j'étais interne, c'est on ne laisse pas sortir ce qu'il n'a pas encore fini de repeindre le pavillon.
Ah oui, on était effectivement...
Ça, c'était l'asile, dans les mauvais sens du terme.
Oui, un côté un peu main-d'œuvre
disponible. Main-d'œuvre. Alors après, c'était entre guillemets de l'ergothérapie. C'est sûr que... l'ergothérapie très utilitariste.
Oui, quand même, oui.
C'est très orienté. L'ancêtre des ESAT.
Oui.
Alors c'est vrai qu'on a autour de nous d'ailleurs des photos anciennes de ce qu'était le CPN et on voit qu'effectivement le travail est un peu au cœur de l'activité. Alors on parle de photos, donc on est effectivement dans le siècle qui vient de passer, mais le travail est quelque chose qui était toujours important.
Et de manière un peu perverse, c'est-à-dire que ça favorisait l'auto-fonctionnement de l'asile qui gonflait périodiquement. Il y avait 90 malades par an en plus avant la Seconde Guerre mondiale. On étouffait dans les locaux. Il fallait trouver une solution. Chose qui explique aussi l'évolution d'après la guerre, si on en fait aussi abstraction du drame des morts par inanition durant la Seconde Guerre mondiale, à l'Axou, comme dans tous les hôpitaux psychiatriques français. Quoi.
Sans vouloir vous paraître désagréable, mais vous êtes donc à la retraite, vous avez connu une psychiatrie qui a dû évoluer par rapport à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez connu qu'aujourd'hui vous imagineriez plus qu'on puisse connaître dans un hôpital psychiatrique?
Déjà, cette vision asilaire qui fait qu'on les critères d'hospitalisation, on pouvait se poser des questions, ils n'étaient pas vraiment psychiatriques. Après, moi, c'est vrai que j'ai débuté, ça a changé. On était en plein dans la désinstitutionnalisation et on était en plein dans la création des CMP. Donc, finalement, j'ai peut-être pas vu autant de... J'étais déçu presque dans le manque d'évolution des traitements, par exemple. Aucune classe pharmacologique nouvelle est vraiment arrivée. Les traitements sont améliorés dans le sens de la meilleure tolérance, mais je dirais, c'est tout.
Ce que vous me disiez d'ailleurs tout à l'heure hors antenne, vous me disiez, aujourd'hui, la psychiatrie évolue aussi parce qu'il y a des nouveaux troubles, nouvelles maladies qui sont apparues. C'est quelque chose que vous semblez avoir vécu.
Ah oui, alors dans le sens des troubles plus légers, donc vous me parliez tout à l'heure de la différence entre troubles mentaux et troubles psy.
Parlons-en justement.
Dans les troubles psy, j'ai vu les choses changer énormément. À la fin de ma pratique, j'ai fait du centre médico-psychologique, ce que j'avais pas fait finalement depuis plusieurs dizaines d'années. Ça m'a choqué plus le nombre de souffrances dues au milieu du travail, par exemple. Là, j'étais vraiment frappé. Ça n'existait pas, ou alors peut-être qu'on n'avait pas l'oreille pour l'écouter, mais les troubles psy, c'est compliqué. Si vous ne trouvez pas d'oreille pour vous écouter, vous n'exprimez pas la chose, à la limite, vous ne prenez pas conscience de la chose non plus.
Vous voulez bien qu'on définisse la différence justement entre troubles psychiques et troubles mentaux ? C'était une question de Roman tout à l'heure.
Troubles mentaux, bon, pour aller très vite, hein, pour moi, les deux maladies psychiatriques intemporelles qui étaient décrites déjà telles quelles par les Grecs, ce qu'on appelle la bipolarité maintenant, mais qui est une notion qui a évolué. La bipolarité est devenue beaucoup plus large que ce qu'on entendait par... Kraepelin, le premier grand psychiatre allemand, a parlé de folie maniaco-dépressif. Et puis, il y avait la schizophrénie, un terme qui a été utilisé plus tardivement en France. C'était la démence précoce, ou démence vésanique aussi, on parlait. Ça existe toujours. Il y avait quand même les névroses qui ont été décrites par Freud. Et puis maintenant, on parle de... avec la notion de santé mentale, toute souffrance psychique, pourrait donner à une écoute psychothérapique et à une prise en charge de soins. Ça a beaucoup élargi le domaine de la souffrance psychique.
C'est vrai que la santé mentale est beaucoup plus prégnante, on a l'impression aujourd'hui, surtout depuis le Covid. C'est quelque chose que vous constatez aussi, peut-être ?
Alors moi, je n'ai pas eu trop le temps de constater. Moi, j'ai vu beaucoup de jeunes gens qui venaient... Alors curieusement, je n'avais pas l'impression qu'ils venaient en parlant directement du Covid, mais de façon générale, il y avait plus de souffrances psychiques. Puis après, on a vu des articles. Moi, mon expérience ponctuelle ne m'a pas permis de saisir vraiment les conséquences psychiques du Covid.
On a entendu tout à l'heure dans le micro-trottoir des gens qui, quand on parle de la perception de la psychiatrie d'hier, nous parlaient de sorciers, sorcières. C'est des choses qui vous font réagir ?
Oui, tout à fait. En plus, je viens de lire quelque chose là-dessus, d'historique de la Lorraine. Alors, je dirais qu'au Moyen-Âge, déjà, la chasse aux sorcières, ça fait référence à l'Inquisition. Et l'Inquisition, on sait qu'elle a commencé vraiment à avoir de l'influence sur la société plutôt au début de la Renaissance. Donc, le Moyen-Âge, non, pas trop de chasse aux sorcières. Par contre, une prise en charge qui était très ponctuellement institutionnelle dans certains établissements religieux. Mais sinon, ils étaient... Les fous, comme on disait peut-être encore, ou les insensés plutôt, étaient en charge des familles, ou ils étaient exclus de la société, plus ou moins errants, quand même une certaine forme de maltraitance.
Oui, on parle d'incompréhension aussi, on l'entendait tout à l'heure dans le micro-trottoir, on disait que ça faisait peur, et qu'on n'allait pas chercher très loin dans la perception de ce qu'était le trouble psychique à l'époque.
Non, mais pour être provocateur, est-ce qu'on le comprend beaucoup mieux maintenant ? On n'a encore que des hypothèses. Je ne suis pas sûr qu'on comprenne. Il y a certaines théories qui n'étaient pas si anciennes, qui sont déjà maintenant périmées. Les choses avancent en permanence et sans explication définitive.
Oui, c'est quelque chose qui évoluera tout le temps, la psychiatrie.
J'espère, en tout cas.
Je vous entendais dire tout à l'heure aussi, quand vous êtes rentré dans cette salle, que les radiateurs avaient une fonction qui pouvait être particulière parfois.
Oui, alors là,
cette histoire aussi.
On n'en est pas trop fiers, mais il y a eu un article, je dirais, à sensation dans la revue L'Express au début des années 70, où des journalistes se sont introduits, je pense, sans autorisation au centre psychothérapique, puisque ça s'appelait déjà comme ça. Et puis, on donnait des photos, dont des patients attachés au radiateur. Et ça, mes années d'internat au début des années 80, c'est revenu très souvent. Ça a été un choc pour l'institution. Je pense que ça a aussi accompagné une évolution vers une diminution des lits, une création de structures extérieures, centres médico-psychologiques, etc.
Donc voilà, ça c'est des choses qui vous ont marqué. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous, ancien psychiatre, vous êtes toujours autant passionné par cette histoire-là ?
J'aurais du mal à dire. C'est sûr que c'est une spécialité frustrante. On ne guérit pas, entre guillemets, comme Moi, je dirais que l'autre extrême de la médecine, c'est la chirurgie. En principe, quand on arrive sur le on ressort de la table d'opération, notre vie est transformée. Et là, parfois, on reproche à la psychiatrie, on vient 10 ans après dans une structure de soins et on retrouve les mêmes malades parce qu'ils ont rechuté. On ne pouvait jamais assurer que quelqu'un ne rechuterait pas. Et ça, c'est pour nous une grosse déception. Oui. Mais en même temps... c'est une aventure humaine, je dirais, exceptionnelle, qui nous aide aussi peut-être à aller un peu au fond de nous-mêmes.
L'aventure humaine, on en reparlera, parce que moi j'ai l'impression en tout cas que quand on prend l'histoire et qu'on voit la psychiatrie aujourd'hui, l'humain rentre un peu plus en ligne de compte quand même dans la façon de traiter la personne, tout simplement. On va peut-être en parler dans quelques instants, je vous propose une nouvelle respiration et puis je rappelle que l'émission est en public, vous pouvez aussi poser vos questions. On est ensemble jusqu'à 11h, on est sur RCN, on est dans Full Santé Mentale et on est ici au CPN pour cette émission spéciale sur l'histoire de la psychiatrie. Merci à vous tous d'être avec nous. On écoute tout de suite le nouveau Grand Corps Malade sur RCN.
Au quotidien, je me prétends plutôt tranquille et patient. Je crie pas, je marche doucement, je suis docile et pas chiant. On peut très facilement m'accuser de nonchalance. Pourtant, sur certains points, j'ai bien senti l'urgence. L'urgence de choisir mes envies, l'envie de choisir mes urgences. Choisir mes combats, mes refus, mes évidences. Choisir pour mieux agir et ne plus procrastiner. Pour vivre l'instant, j'ai fait des progrès stylés. Demain, c'est loin et c'est pas moi qui l'ai dit. Le présent est précieux, l'inertie l'en est dit. Si l'espoir se permet, quand l'élan se transmet, honnêtement, faut y aller, c'est maintenant ou jamais. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. Est-ce que c'est pas plus subversif d'arrêter de se plaindre, d'arrêter de se craindre, d'accepter de se joindre? Puisque la vie est un jeu plutôt interactif, essayons tous ensemble d'en faire un terrain de kiff. C'est dès aujourd'hui qu'on peut changer les choses, qu'on peut scander nos causes, qu'on ose et qu'on propose. Il y a quelques sujets qui ne peuvent plus attendre, on a tous un rôle à jouer et quelques comptes à rendre. Le climat, le partage, solidaire, être heureux. Soyons à la hauteur, ce n'est pas surhumain de remettre à aujourd'hui ce qu'on pensait faire demain. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. Pour que nos actes se reflètent dans un futur apaisant, avec ma DeLorean, c'est retour vers le présent. Y a pas beaucoup de temps, mais y a encore de l'espace pour 2-3 trucs importants. C'est aujourd'hui que ça se passe.
Santé mentale sur RCN.
Avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais.
Et toujours ici au CPN de Nancy pour parler de l'histoire de la psychiatrie dans une émission Full Santé Mentale tout à fait spéciale avec un studio délocalisé ici dans le bâtiment Bonfils, voilà, qui porte le nom du fondateur, de l'ancien directeur,
d'un médecin
qui a été important ici. Tout simplement. Je vais me tourner. Alors, il y a quelques instants, on discutait de l'histoire de la psychiatrie. Dorothée, j'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu. Vous êtes patiente,
oui,
c'est ça. Et par rapport à ce que vous avez entendu, il y a des choses qui, je crois, vous ont fait réagir. Est-ce que vous voulez bien nous les partager ?
Ben oui, c'était par rapport à ce que pouvait dire le docteur Monfort. Ce médecin, donc pardonnez-moi, le nom va me revenir. Je suis un peu stressé, mais c'est pas grave, on va y arriver.
Tout va bien se passer, on a le temps, ne vous inquiétez pas.
Et en fait, c'était sur le fait qu'il était déçu de revoir 10 ans après le patient. Alors moi, j'ai simplement inversé la chose. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, bon, je vous parlais d'aujourd'hui principalement, après on parlera de l'évolution, bien sûr. Vous voulez, mon parcours est particulier, bon, très bien. Moi, j'ai plutôt envie de dire, aujourd'hui, on vous donne les outils nécessaires de façon à éviter l'hospitalisation, déjà. Après, moi, je dirais, je pars de l'humilité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se rende compte que quand on est malade, bah, parfois, on peut avoir des rechutes et qu'on peut, on a le choix de se refaire hospitaliser. C'est pas simple, c'est vrai. Mais c'est un choix, comme je disais, un mal nécessaire. Alors, c'est vrai, c'est frustrant pour un homme de science de dire « Mais c'est pas cool, on guérira jamais. Ben, » je reprends vos termes. Moi, mon dernier médecin, je tairai son nom même s'il est adorable, ben, il me disait « Madame Devaux, c'est bien, vous êtes en rémission. » Il faut parler de cancer, je crois. Oui, c'est une forme de cancer. Aujourd'hui, on dira le beau mot « Vous êtes rétabli. »
Oui, c'est le rétablissement dont on parle aujourd'hui.
Mais vous ne serez jamais guéri. Ça, il faut le savoir. Il faut l'accepter. C'est vrai, vous passez par la colère, le déni, c'est vrai. Après, vous le tolérez, et l'acceptation. Mais pour ceux qui arrivent à l'acceptation, c'est loin d'être évident. Parce que accepter qu'on a une pathologie mentale, même si c'est vrai par rapport au micro-trottoir, quand j'entends dire, bon, oui, on les comprend mieux, etc., etc., oui, mais ça fait toujours peur. Ça, je peux vous le dire.
Je partage ce que vous dites là. Moi, je l'entendais aussi. Je me disais, il y a une forme de stigmatisation dans la façon de le dire. Quand on dit, quand on regroupe en disant ils font peur ou bon, ils sont mieux intégrés maintenant. Il y a encore un peu cette idée-là, un petit peu, dans ce qu'on
entend. Exactement. C'est vrai. Mais vous savez, moi, j'ai vécu simplement avec ma famille. Il y a 25 ans. Ouais. Bah, j'ai une expérience de 25 ans de ces endroits, de CPN, de psychiatrie. J'en suis pas spécialement fier. Et alors ? Mais ce qui fait le plus mal, c'est votre famille, parce qu'elle est complètement démunie. Alors, on parle de la souffrance du malade, ça j'ai entendu, il souffre, etc. Oui, il souffre, c'est vrai. Mais la famille, c'est encore pire pour eux. Parce que comme vous dites, ça ne se voit pas. Mais pour le malade, par rapport à ce qu'il voit, c'est peut-être pas la même réalité. Dès qu'il y a un souci au début, « Oh, c'est Dorothée ». Elle n'est pas très en forme, elle est un peu folle. Ouais, on va lui laisser passer. Mais comment vous, vous réagissez ? Eh bien, c'est de l'incompréhension. Et on est mal. On se sent de plus en plus mal. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on s'isole. On dit non, c'est bien. Puis à la limite, je me dis, ben, je vais retourner à l'HP. Là, au moins, on me comprendra. Il y a des gens comme moi.
Il y a encore de l'incompréhension, hein, docteur Montaud, hein, aujourd'hui, avec la psychiatrie et la maladie psychiatrique, on l'entend bien là.
Oui, alors là, on parle d'une incompréhension au niveau familial, entre autres.
Bon, on parle de stigmatisation aussi.
Attendez,
hein, ouais.
Je vous parlais de mon expérience.
Alors la stigmatisation,
tout simplement.
Ce qui me surprend surtout, c'est vis-à-vis de la maladie schizophrénique. D'ailleurs, dans le micro-trottoir, on parle du terme qui est devenu stigmatisant de schizophrénie. D'ailleurs, il me semble que certains voulaient changer le nom. Je dirais le corps elle-même, on mène une autre chemise. Quoi. Oui, on peut pas nier. En plus, il y a des événements qui ont été fortement médiatisés, qui ont donné d'ailleurs tout de suite lieu à une réponse, je dirais, un peu sécuritaire. Ça n'a pas fait de bien
à la psychiatrie. Je ne suis pas d'accord avec vous, docteur. Excusez-moi de vous couper. Pas très médiatisé. Et Britney Spears, pourtant, on l'a entendu, celle-là. Bah, elle est bipolaire. Et Mariah Carey.
Oui, pareil. J'ai dit que c'était médiatisé.
J'ai compris l'inverse.
Non,
c'est pas grave.
On était en train de dire effectivement que c'est médiatisé, mais parfois pas dans le bon sens non plus. Parce qu'effectivement, on entend encore aujourd'hui quand il y a par exemple des gens qui souffrent de schizophrénie, qui peuvent dans un excès blesser ou tuer. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est ce moment où la société parle du trouble psychique, alors qu'à aucun moment on parle aussi de tout ce qui va autour, parce qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent. Vous le disiez, Dorothée, hein, je reprends aussi un petit peu dans ce que vous disiez. Moi, j'entends qu'il y a un petit peu cette notion d'accompagnement, d'éducation à la compréhension de sa propre maladie.
C'est vrai.
Parce que vous le dites, on peut accepter et comprendre qu'à un moment donné, peut-être nous-mêmes, on va demander à retourner en hospitalisation. C'est aussi quelque chose qui a évolué de façon importante.
Oui, c'est vrai, parce que je vais repartir au début. Si vous repartez, en 98, première hospitalisation, vous dites que vous faites une bouffée délirante, et c'est bien. Alors la prise en charge, pardonnez-moi, vous avez un psychiatre, bien, une psychologue, c'est tout. Et vous verrez dans à cet endroit. Mmh. Point. Mmh. Bien. Bon, 3 ans plus tard, on me pose un diagnostic de bipolarité. La bipolarité, bah, c'est bien, je suis contente. Qu'est-ce que c'est que la bipolarité? C'est bien obligé de faire avec. Il y a toujours un psychologue, bien sûr. Ah, mais des infirmières, quand même, psychiatriques, qui sont plus présentes, là, paradoxalement. Bien, ok. Mais, pardonnez-moi, docteur, il n'y avait pas d'ergothérapie, on n'avait rien sur la musique, il n'y avait rien sur les ateliers. Alors, aujourd'hui, simplement, parce que je vais éviter de raconter toutes les années, vous allez être paumés. Moi aussi, d'ailleurs. Je n'ai pas assez de mémoire pour ça, alors. Bon, voilà. Eh bien, aujourd'hui, je ne cacherai pas que j'étais encore hospitalisé il y a un mois. Mmh. C'est compliqué, c'est vrai. Bon, mais j'acceptais déjà ma maladie. Ouais. Mais c'est moi qui ai voulu revenir. Mmh. Et comment ça a évolué, là? Eh bien, on vous donne plein d'activités. Je ne vous raconte pas. Le médecin, vous le voyez, très bien, oui. Mais il va se référer aux infirmières, aux psychologues, aux éducateurs que vous aurez monopolisés, qu'on vous propose. Et donc, il faut un point. Bien. Ok. Et vous revoyez le médecin, et tout d'un coup, il vous augmente votre traitement. Oh. Alors moi, je suis un peu têtu, c'est clair, mais aujourd'hui, on ne le demande plus. Et pourquoi? Ça, le médecin m'a dit, ben, parce que vous n'allez pas très bien, je crois. Et pourquoi vous dites ça? Ben, parce que moi, j'ai entendu dire ça. Les infirmiers, tac, 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 tac. Les autres éducateurs, pareil. Bon, ben, je vous suis. C'est gonflant, pas grave. Et après, à la fin de l'hospitalisation, au bout d'un mois, et demi, alors vous êtes rétablie, madame? Ben, pas vraiment, parce que pendant un mois et demi, j'ai été protégée, c'était cool. Mais maintenant, les médicaments, c'est vrai, je suis un peu en rémission, comme vous le dites, mais c'est pas cool. Parce que ça, ce qu'il faut dire, c'est que les médicaments, ben oui, il est là, le traitement. Je dirais que ça fait un quart de la réponse. Les trois quarts, c'est à vous de le faire.
Mais vous le faites quand même un peu plus accompagné que ça ne l'était au début, si j'entends bien dans ce que vous nous racontez. Pardon, allez-y,
c'est
allez-y.
C'est pour ça que j'ai eu l'opportunité, excusez-moi, je suis long.
Je vous en prie, non, mais je vous en prie.
Longue. Et c'est là que je rencontre Espoir 54, ouais. Je vous dis franchement. Donc j'ai la présidente, vice-présidente à côté de moi, Madame Baroche, et je me dis, pourquoi pas, mais c'est quand même vachement dur, quoi. Et là, on me propose une gestation de 9 mois. Pendant 9 mois, d'essayer de faire quelque chose avec ma maladie, de m'accompagner pendant 9 mois, et dans tous les niveaux, là j'ai envie de vous dire, de la vie courante. Si vous n'arrivez pas à trouver trouver le chemin pour arriver chez eux, je dis, mais c'est pas grave, vous me dites où vous habitez, et on vient vous chercher en voiture. Pendant 9 mois, vous êtes encore un peu protégé. Mais le but, quand même, c'est d'enfin naître, c'est une naissance au bout de 9 mois, avec des buts. Et c'est ça à tous les niveaux. Donc je sais pas, il y a Roman là-bas qui est père aidant. Peut-être que...
Pas vraiment.
Excusez-moi, je vous prie d'excuser. C'est pas vous. Je vous réveille.
Mais voilà, on sent quand même qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont mises en place depuis que vous nous racontez votre histoire. On sent qu'au début, même le diagnostic était pas le même que celui qu'on vous pose aujourd'hui, et du coup, l'accompagnement n'était pas le même. Marie-Claude Baroche, peut-être justement un mot là-dessus, parce qu'on sent, vous êtes présidente, si je ne dis pas de bêtises, d'honneur d'Espoir 54. Espoir 54, par exemple, fait partie des associations qui accompagnent aujourd'hui. Les gens qui souffrent de troubles psychiques. Donc il y a beaucoup de choses qui changent aujourd'hui, qui évoluent, qui bougent, des dispositifs que vous mettez en place. Vous voulez bien en dire un mot?
Oui, tout à fait. C'est vraiment le cœur du métier d'Espoir 54, d'accompagner les personnes et de les accompagner dans la cité, de leur permettre de vivre le plus normalement possible dans la cité. Ça, c'est notre objectif. Partir des compétences des personnes, il faut déjà qu'elles les reconnaissent. Et ensuite, par rapport à ses besoins, essayer d'y répondre par justement des entretiens, de la psychothérapie. Et on propose énormément d'activités aussi. Des activités qui permettent à la personne de retrouver confiance en elle. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc effectivement, ce retour dans la cité... est essentiel parce que c'est là que les personnes vivent et il faut qu'elles puissent trouver leur place. Trouver leur place, là, il faut dire qu'il y a des progrès très importants qui ont été faits parce que pendant longtemps, par exemple, la parole des personnes avec un trouble psychique, elle était complètement disqualifiée. C'était la parole d'un fou. Et ça, c'est quelque chose, ce sont des personnes qui maintenant sont capables de témoigner, qui écrivent, qui participent à des films, à des émissions de télévision.
Et même au-delà de ça, j'allais dire qu'il accompagne d'autres personnes qui passent par ce parcours plus tard. Les pères aidants, par exemple, c'est quelque chose qui est très important. C'est des gens qui ont souffert du trouble, qui sont aujourd'hui en rétablissement et qui accompagnent les gens qui sont dans la découverte de ce trouble.
Tout à fait. Et ça, l'entraide est une des... c'est absolument essentiel. Et je crois que la promotion de la santé mentale, ce sont les usagers qui sont les mieux à même de la faire et de faire comprendre à leur entourage que, ma foi, voilà, on peut vivre avec des troubles psychiques. Il faut évidemment suivre un traitement et surtout être accompagné et avoir une activité, des activités qui font plaisir, qui apportent une certaine satisfaction. Il faut voir que ce sont des pathologies qui touchent assez souvent des personnes qui ont commencé des études à l'université. Donc l'entrée dans leur vie active, dans leur vie professionnelle a été complètement bouleversée par l'irruption de la maladie. Et donc il faut redonner espoir à ces personnes et leur redonner leur place, la place qu'elles souhaitent prendre dans la société.
L'émission touche déjà presque à sa fin et c'est très très frustrant parce qu'on aurait envie de continuer des heures. Docteur Montaud, dans tout ce qu'on vient d'entendre, on se rend compte qu'il y a quand même une réelle évolution, presque peut-être une révolution dans la prise en charge du trouble psychique. Comment vous expliquez qu'on soit passé de l'asile d'aliénés, ce qui c'était encore il y a pas si longtemps que ça, aujourd'hui à un endroit où des associations peuvent tourner autour, des processus peuvent être mis en place pour accompagner les personnes à mieux se connaître, à mieux comprendre le trouble duquel ils souffrent et à peut-être prendre plus en autonomie.
Oula, c'est une question qui
c'est large.
Une réflexion
philosophique, sociologique. Et je vais vous demander en plus de faire assez court, c'est terrible.
Ce qui est sûr,
hein.
C'est que l'individu n'a pas la même valeur maintenant qu'auparavant. Enfin, il y a une individualisation de la société qui est certain. Il y a l'apport de Freud, par exemple, dans l'écoute du malade, du sujet, comme on disait à l'époque de la psychanalyse régnante. Je vois bien dans les vieux dossiers, enfin, les observations sont réduites quasiment à rien. Il n'y a aucune observation concernant vraiment le discours du malade. Il est sûr qu'on est dans une autre planète maintenant, et d'un point de vue positif, évidemment.
Oui, j'allais dire, on peut dire tant mieux, effectivement. Oui. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission qui donc déjà doit se terminer et on le regrette. Je voudrais juste vous montrer ce journal. Peut-être qu'on peut en parler en un mot, Stéphanie. C'était le journal du CPN. Là, j'ai la version, le tout premier qui est sorti.
Oui, tout à fait. Alors, en trois mots, vous avez trois couvertures du même journal du CPN, Centre psychothérapique de Nancy. Le numéro 0. Le numéro 400 pour l'anniversaire du CPN et le dernier numéro. Et du coup, ça permet de montrer l'évolution du journal, mais du coup, l'évolution de la psychiatrie en général.
Merci à vous toutes et vous tous d'avoir participé à cette émission. Je remercie Dorothée pour votre témoignage qui était très riche et très intéressant d'avoir dans cette émission ce matin. Merci à vous Marie-Claude Baroche, présidente d'honneur d'Espoir 54. Et puis merci à vous aussi docteur Thierry Montaud, psychiatre à la retraite de la psychiatrie publique, je le redis, et qui est passionné d'histoire, on l'a ressenti. Et croyez-moi, je trouve que c'est toujours frustrant de finir une émission full santé mentale, mais encore plus ce matin. Merci à vous d'être venu nous voir ce matin et merci de nous avoir écoutés à la radio. Stéphanie Romand, merci à vous également.
Merci à vous.
Et puis on se retrouve le mois prochain.
C'est ça. Avec la thématique santé mentale et addiction.
Voilà, santé mentale et addiction. Je vous propose qu'on termine avec quelques notes de musique et on va écouter un petit morceau, un petit bout des Beach Boys pour finir cette émission. Belle journée à tous sur RCN et au mois prochain pour Full Santé Mentale. Mmh.